France Inter. .fr.
Bonjour, c'est Emmanuel Krivine, l'un des plus grands chefs de notre temps, qui est l'invité de Vous avez dit classique aujourd'hui. Il vient d'être nommé directeur musical de l'Orchestre National de France, l'un des deux orchestres de notre belle maison, que vous connaissez sans doute. Il prendra ses fonctions en septembre 2017, mais il est dès à présent directeur musical désigné et continue par ailleurs de diriger la Chambre Philharmonique, un ensemble sur instruments d'époque qu'il a fondé en 2004. Un homme à poigne, dit-on, qui s'est notamment fait connaître pour avoir métamorphosé l'Orchestre National de Lyon, dont la réputation ne dépassait pas sa région, à une reconnaissance internationale qui lui vaudront la reconnaissance du public et des institutions. Un chef à la vision de l'orchestre bien à lui, un anti-maestro proclamé, qui a renoncé au côté paternaliste du Kapellmeister, qui aime la direction fondée sur l'écoute et l'égalité, qui n'oublie jamais le public car il ne prépare aucune représentation sans se demander ce que le public en penserait ou se mettre à la place des spectateurs. Emmanuel Krivine, qui était au départ violoniste virtuose, premier prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à 16 ans, est devenu chef d'orchestre en 1981 après un accident de voiture. Il a depuis dirigé les plus grands orchestres du monde, comme le Concertgebouw d'Amsterdam, le Philharmonique de Berlin, ceux de New York, Boston, Los Angeles, Cleveland ou encore l'Orchestre de Chambre d'Europe et de 2006 à 2015, l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Nous n'aurons donc pas suffisamment d'une heure pour tout évoquer avec lui, mais ses goûts musicaux seront le fil conducteur de cette carrière bien riche. Bonjour Emmanuel Krivine.
Bonjour.
C'est vrai que c'est une vie incroyable dans la musique. On a l'impression que vous avez presque un siècle. C'est vrai ?
Non, j'ai pas tout à fait un siècle. Non.
Mais en tout cas, c'est le début.
Pas vraiment.
C'est le début.
Non,
du... À l'ONF, ça va être le début.
J'ai pas d'âge quand je fais de la musique, je sais même pas. J'ai comme si j'avais 18 ans.
Toujours ?
Non, moi j'ai 69 depuis un mois. Mais honnêtement, c'est que sur la carte, c'est que sur le passeport. Je n'ai jamais senti la moindre chose de cet âge-là. Non, ce qui est, non, la biographie est un peu dithyrambique, hein, il faut se calmer.
Ah bon?
Oui,
c'est vrai ce que je dis.
Pas tout à l'heure, mais oui, c'est vrai, mais il y a des détails, parce que j'ai pas fait le New York Phil, mais c'est pas grave.
Ah.
Ce qui est important, c'est que si vous voulez, c'est pas de l'anti-maestro, c'est plutôt retenir du maestro le côté musical de la chose au lieu de se crisper sur le maestro social. C'est ça. Le maestro est au service de la musique. C'est pour ça d'ailleurs que je déteste, enfin, je refuse qu'on dise maître à maître. Je dis s'il vous plaît maestro, bah ça c'est comme si vous disiez bonjour au bois, bonjour flûte, bonjour contrebasse. Bah là c'est bonjour maestro. Mmh. Donc c'est purement fonctionnel.
C'est comme voilà. Si on enlevait l'humain de la fonction.
C'est pas l'humain qu'on enlève, c'est le truc d'autorité sociale. Non, c'est une autorité musicale. Mmh. Voilà.
Alors, au programme de Vous avez dit classique aujourd'hui, Strauss, Shostakovich, Beethoven sous vos phalanges, et puis Debussy, Bach et Roll Garner. Un programme très varié. Mais pour commencer, une cantate de Jean-Sébastien Bach composée sur le tard en 1730. Il aurait eu 63 ans à cette époque. Une cantate d'échange entre une trompette et une voix, d'une belle virtuosité que vous avez choisie pour commencer, qui vous ramène à l'enfance, je crois, Emmanuel Krivine.
Oui, c'était les premiers, sont des premiers fétiches, si vous voulez, les choses auxquelles on s'attache en musique, et on s'identifie avec ça, c'est talismanique, quoi. Dieu dans toutes les contrées.
Prier Dieu dans toutes les contrées, oui.
Et c'est très joyeux et moi j'adorais ça et je voulais faire que du bar toute ma vie. D'ailleurs encore maintenant, si j'avais eu un choix d'une réincarnation à condition qu'elle soit possible et qu'elle existe et que ce soit amusant, bref, etc. Je choisirais d'être organiste et jouer du bar du matin au soir, du soir au matin, puis un peu de jazz et ça me suffirait largement.
C'est vrai ?
Largement, oui.
Bon ben, on écoute cette cantate qui vous a bercé enfant, Emmanuel Krivine, la cantate 51 de Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
Njorset Got in Allen London. C'est Emma Kirkby qui chantait. À la trompette, c'était Crispian Steele Perkins. Et c'était les solistes baroques anglais sous la direction de John Eliot Gardiner. Donc, c'est le souvenir de votre enfance, je crois, Emmanuel Krivine.
Oui, on avait ça. C'était des vieux disques avec Suzanne Danko, je me souviens, qui hurlait ça, parce qu'en ce temps-là, on ne chantait pas Bach comme maintenant, évidemment. Et Gardiner l'a fait une intégrale. Bach a un coffret phénoménal que mon épouse m'a offert pour Noël il y a un an, je crois, ou il y a deux ans. C'est une merveille. C'est étrange qu'on voit Bach souvent, qu'on perçoive Bach comme ce qu'on appelle la grande musique, c'est-à-dire un truc emmerdant. C'est pas du tout ça. C'est absolument pas ça.
Quel plaisir vous retirez en écoutant ça? Quel plaisir vous en retirez, par exemple, Emmanuel Krivine?
L'abstraction de Bach permet justement que ce soit décodé, donc on peut très bien sentir que ça swing parce que c'est de la musique abstraite. C'est justement par l'abstraction que ça parle à la sensation. C'est assez drôle, ça. Comme le jazz, quoi. Le jazz n'a pas de message particulier, hein. C'est fait pour faire de la musique. Bach, c'est la même chose. On pourrait presque dire qu'il met les paroles après, si tu veux. La musique sert à soutenir les paroles. Non, les paroles soutiennent la musique plutôt que le contraire, je pense.
Oui, c'est vraiment la musique qu'on écoute. Alors vous, Emmanuel Krivine, vous venez d'une famille de musiciens?
Pas vraiment,
mais tout le monde faisait d'un instrument.
Non, ils étaient amateurs, ils aimaient la musique. Enfin, ce sont des milieux où on fait de la musique, parce que ça vient de Russie, Pologne, etc. Ils écoutent beaucoup de choses. Même ma mère était déjà dans votre sec dans des années où personne ne savait même ce que c'est. Puis les quatuors de Beethoven, et puis beaucoup de jazz.
Et puis elle chantait, votre mère jouait du piano et votre sœur chantait.
Oui, c'est ça, mais comme des pieds, mais en aimant ça, quoi.
Et du coup, vous avez beaucoup entendu aussi les Frauenlieben und Leben de Schumann, c'est
beaucoup,
ça?
Beaucoup, oui. J'ai entendu plein de trucs, parce que le soir, quand je m'endormais, il y avait à chaque fois d'autres morceaux, souvent massacrés, mais au moins j'ai pu connaître le répertoire.
Alors, ce sont des leaders mis en musique qui racontent l'épisode d'une femme, hein. C'est la femme qui parle. Là, on va écouter la deuxième évocation, qui est l'évocation de l'admiration amoureuse qu'elle a pour l'homme qu'elle a rencontré. Elle dit c'est lui de tous le plus beau. Alors on va l'écouter dans l'interprétation par Bruno Walter au piano et Kathleen Ferrier qui interprète donc le chant. C'est vous qui vouliez entendre Kathleen Ferrier parce que c'était ce que vous écoutiez enfant?
Oui, c'est pas forcément ce que je choisirais maintenant,
ouais.
Mais c'est quelqu'un qui a été identifié à cette œuvre. Et il y a pas mal d'œuvres, mais peut-être maintenant il y a plein d'autres façons de chanter ça, mais elle est très intéressante évidemment.
And more.
L'amour et la vie d'une femme d'Herbert Schumann, Frauen lieben und leben, interprété donc par Bruno Walter au piano et Kathleen Ferrier à la voix. Et vous, en l'écoutant, vous pensiez à cette interprète qui était Kathleen Ferrier, Emmanuel Krivine.
Oui, c'est très intéressant parce que c'est ce genre d'interprète comme elle est identifiée à une œuvre, on croit que on peut pas imaginer que l'œuvre soit jouée par quelqu'un d'autre.
Elle a réussi
c'est arrivé avec Fischer-Dieskau dans Schubert, dans Schumann, c'est arrivé avec Horowitz dans troisième Rachmaninov, ça peut arriver avec Heifetz dans certaines choses. C'est Martha aussi. Donc après, ou Byron Jennings dans Rachmaninov. Donc on peut, si vous voulez, Kleiber dans Fledermaus, etc. Donc on peut pas. On ne sait pas si l'œuvre c'est l'interprète ou si l'interprète est l'œuvre. C'est très intéressant. Et ensuite, le risque, c'est que ça ferme ça conditionne tellement les personnes qu'après elles trouvent que tout est minable quand ce n'est pas ces personnes-là qui jouent, alors que l'interprète est par définition de passage, même s'il est génial.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Emmanuel Krivine, votre carrière a commencé par le violon. En fait, vous avez été violoniste avant de devenir chef d'orchestre à part entière. On vous a mis un violon entre les bras ?
C'est le mot.
C'est vraiment ça, hein?
Oui, mais ça se fait dans beaucoup de familles. Tout dépend de l'observation du désir, quoi. L'observation du désir de l'enfant, la traduction, l'identification. À mon avis, la bonne méthode est de laisser venir le désir, voir comment ça se manifeste avant d'envoyer dessus ses propres désirs. C'est le meilleur moyen d'épanouir les gens.
Donc chez vous, le véritable désir est venu plus tard parce
Oui, le violon était réellement une voix qui n'était pas la mienne. Bien, mais j'étais doué, hein, tout ça, j'aimais ça, mais c'était pas mon truc. La preuve, en 65, j'ai commencé à conduire. Et en 75, c'est-à-dire 26 ans avant mon accident, de voiture, j'étais, il faut choisir. Oui, donc, j'étais ici à l'Orchestre Philharmonique de Radio France en 75.
Déjà à diriger.
À conduire.
À conduire, voilà. C'est bien ça. Donc, à ce moment-là, ça s'est révélé. Et en 80, pourquoi vous avez décidé de devenir chef uniquement, Emmanuel Krivine?
Ah mais j'ai pas décidé, je faisais pas mal de direction, j'étais ici permanent à l'Orchestre Radio France, au Philharmonique, et tout ça, et en fait il fallait que je choisisse entre l'un et l'autre, et comme je me suis endormi dans une voiture, ça a choisi tout seul façon de parler.
On va vous écouter quand même dans votre carrière de violoniste, évidemment, parce que c'est intéressant de vous entendre, la sonate en sol mineur de Debussy. Vous êtes en duo avec Christian Ivaldi, c'est un bon souvenir?
Oui, très bon souvenir, sauf que le violon, moi, c'était pour moi une source d'anxiété, mais pour pas mal de gens. Néanmoins, vous avez pas mal de personnes qui sont tout à fait à l'aise avec les violons, mais c'est quand même rare.
Pourquoi?
Parce que déjà la position, les ondes, les fréquences aiguës dans l'oreille, la position un peu spéciale, vous appuyez l'archet dans le vide alors qu'il appuie sur la corde, mais votre main est dans le vide.
Ouais.
Bon, il y a tout un déplacement, mental, c'est pas si simple, mais il n'empêche que vous avez des capucins, des chahams, des tas de gens qui sont tout à fait heureux sur leur violon, et tant mieux.
Tout cas, ça s'entend pas que vous souffriez, pas du tout même, dans ce final de la sonate en sol mineur de Debussy. Thank you. un extrait de cette sonate en sol mineur, le final de Claude Debussy. Christian Ivaldi au piano et Emmanuel Krivine au violon. Emmanuel Krivine qui est mon invité aujourd'hui. Et cette façon de jouer qui est la vôtre et aussi de diriger qui, moi, quand j'écoute un peu, je me dis il y a quelque chose d'une envie de swinguer. C'est possible ça? On peut swinguer en musique classique, Emmanuel Krivine?
On peut swinguer dans... D'ailleurs, je ne sais pas swinguer ou ne pas swinguer. Ce n'est pas to swing or not to swing, or to beat or not to beat. de battre ou ne pas battre. Bref, la question est plutôt... Qu'est-ce que c'est la question? La question, c'est que la sensation, tout ce qui parle à la sensation, à l'écoute, à l'audition, à l'écoute, quoi, n'a pas besoin de méthode, n'a pas besoin de traduction, n'a pas besoin de mode d'emploi, n'a pas besoin de quoi que ce soit. Ça passe par l'oreille, basta. Et tu reçois avec ce que tu es, cultivé, pas cultivé, documenté, pas documenté, quelles que soient les nations, les classes sociales, les races, tout ce que tu veux. C'est comme l'eau. Tout le monde a besoin d'eau. Et tu vas la chercher là où elle est. Pareil avec la musique. C'est pas parce que, c'est pour ça qu'on a rien compris en ce moment-là, depuis quelque temps, où on évangélise les foules avec la musique, etc. Bon. Non. En fait, c'est pas parce que quelqu'un ne sait pas qu'il y a de l'eau quelque part, qu'il faut remettre en cause l'eau. C'est simple, hein.
Bon, mais la musique, c'est pas si simple.
La musique, c'est la même chose. C'est comme de l'eau. C'est tout. Donc le type a besoin d'eau, il la trouvera tôt ou tard. Voilà.
Et alors, par exemple, Errol Garner qu'on va écouter tout de suite.
Voilà de l'eau,
précisément.
Et où ça swing en plus.
Ça swing. Alors, racontez-vous ce qui vous plaît dans Errol Garner, parce qu'on va l'écouter donc dans son concert de 1955 en Californie, un concert mythique qui vient d'être réédité là il y a quelques temps. Oui. Et on sent chez lui cette jubilation de jouer, mais n'est-ce que cela qui vous plaît? Chez lui,
non, c'est son invention, l'indépendance des mains. Enfin, vous avez ça chez plein de jazzmen. Mais si vous voulez, on était peu au conservatoire, mais il y a longtemps. Moi, j'étais au conservatoire à Paris entre 60 et 63, donc vous n'étiez pas né, personne ici. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'on était très peu dans la salle, quand même, de faisant partie conservatoire. Il y avait mon cousin qui était Pludermacher, Georges Pludermacher, comme on dit ici, je suppose. Et puis, il y avait un pianiste qui a fait du jazz, Alessandrini. Je sais plus. On était deux, trois. Moi, je l'ai suivi à Amsterdam, je l'ai suivi à Bruxelles, je l'ai suivi Garner partout. Moi.
C'est vrai.
Je peux vous dire qu'on n'était pas nombreux dans la salle.
Autodidacte.
Vous voyez, avec la nouvelle génération qui est dans la musique là. La nouvelle génération, il y aurait beaucoup plus de monde du conservatoire dans un concert de Garner qu'en ce temps-là où on était deux, quoi. C'est un type génial, il improvise génialement, il connaît très bien le classique. Bref, c'est un monstre, c'est tout.
Eh bien, le voici. Donc, en 1955, ils sont trois à jouer. On a l'impression qu'il y a un orchestre complet qui joue, surtout lui avec son piano, Lullaby of Birdland. Voici Errol Garner.
Thank you.
Lullaby of Birdland, Errol Garner qui interprétait donc ce standard avec Denzil de Costa Best à la batterie et Eddie Calhoun à la contrebasse, enregistré en 1955 en Californie. Vous disiez, Emmanuel Krivine, ça coule, c'est vraiment, c'est d'une évidence totale, comme l'eau, vous le disiez à l'instant.
Oui, mais vous voyez ce que les gens appellent la grande musique, bref, la musique classique, le monde classique, même si c'est la musique moderne, contemporaine ou romantique, etc. C'est pas parce que c'est écrit qu'on ne peut pas l'intégrer de la même façon. C'est juste écrit. Lui, quand il prend ça, bon, il a eu une feuille, 20 ans avant, il y a eu une feuille avec 3 notes dessus. Bon, tac, après, la feuille est oubliée. Très bien. Mais la façon d'intégrer dans le corps, que ce soit pour celui qui joue ou celui qui écoute, celui qui joue et celui qui écoute, c'est la même chose. Tu peux exactement ressentir Brahms dans ton corps, comme on vient de ressentir Garner. Que celui qui écoute et celui qui joue et celui qui conduit, c'est la même chose.
Alors justement,
pas de différence.
Emmanuel
Sauf
Krivine.
Chez les cultureux qui peut-être veulent prendre le pouvoir et pouvoir, si vous voulez, inconsciemment ou consciemment, montrer à l'autre qu'il ne connaît rien. Et si c'est du pharisaïsme, c'est-à-dire moi je connais, toi tu connais pas. Si le pharisien se tait, enfin l'intermédiaire, tout le monde a accès à tout, il n'y a pas besoin d'avoir les codes. La preuve, moi j'avais pas les codes Garner, ben j'aime ça, voilà, fini.
Alors, Emmanuel Krivine, quand...
Pareil avec la dimension euclidienne. Par exemple, la perspective pour un tableau, la perspective, il n'y a pas besoin de connaître la perspective, par exemple... Un indigène de je sais pas où ne connaîtra pas la dimension euclidienne, bref, l'œilleton, la perspective. Bon, il verra donc l'œuvre peinte, dessinée à plat, mais il en jouira de cette manière à plat, ça fait rien. Il en jouira autrement que celui qui voit la perspective. Pardon, je m'arrête.
Alors, comment concevez-vous, vous, Emmanuel Krivine, la direction d'orchestre? Parce que.
De cette manière.
De cette manière simplement, c'est-à-dire que.
C'est-à-dire, on intègre une partition, on l'intègre, elle est dans le corps, elle est intégrée.
Mais par rapport aux musiciens.
C'est la même chose.
Oui.
Bah, t'as pas d'instrument dans les mains, mais tu fais ressentir par ton écoute, ton attitude, bref, les ondes que t'envoies, juste par ton désir d'entendre, puis en plus le désir d'entendre celui qui joue en face, tout ça, ça communique, c'est comme un caoutchouc dont chacun aurait un bout. Voilà, c'est la même chose exactement, sauf que tu joues pas, t'as les mains vides.
Ça suppose de beaucoup chanter aussi, quand vous entendez quelque chose?
Non.
Non?
Ah non, non, c'est sur le plan de l'écoute. Moi, je chante comme un pied. En plus, avec ma voix du nez, vous voyez ce que ça donnerait. La salle se vide dans les 3 secondes.
Oui. Alors, pourquoi vous avez voulu, en 2004, fonder la Chambre Philharmonique, Emmanuel Krivine?
Pour apprendre la vulnérabilité Nous sommes dans un monde où les instruments sont considérés comme efficaces. On confond, par exemple, une voiture qui doit aller d'un point à un train, une fraise de dentiste, etc., avec un violon. Un violon, c'est fait pour produire de la musique. Une fraise de dentiste, ça doit être efficient. On n'a pas été efficient en musique. Donc, on peut jouer faux. On peut faire pas trop de bruit, pourquoi pas. Je veux dire, la musique n'est pas technologique. Il y a pas
Donc,
de
est-ce film. Qu'elle n'est pas technique non plus?
Elle est technique, mais... c'est pour faire de la musique, c'est un outil. Donc là, en ce moment, on est un peu dans un monde où il faut jouer propre, fort, brillant, décibels, intonation, propreté. Tout ça, c'est un monde de la matière. Ça va très bien sur une moto, elle doit avancer, etc. Ça va sur un couteau qui doit couper. Là, il s'agit de faire de la musique. Donc les instruments d'époque vous apprennent l'artisanat.
Oui, parce
vous
que
ramène à l'artisanat.
Dans ça la veut pas dire que les... vous avez décidé de prendre les instruments.
Oui, les instruments d'époque. Ça ramène à l'artisanat. Attention, dans les orchestres modernes institutionnels comme le national, bon, ce sont de très bons musiciens qui comprennent. Ils comprennent tout à fait que c'est un outil, même si c'est des instruments modernes.
National, simplement, l'orchestre national de France.
Hein, oui, celui-là. Ouais. Donc, c'est, si vous voulez, c'est un moyen de. C'est une différente manière d'aborder la musique. Il n'y a pas celui qui a raison et qui a tort. C'est autre chose, c'est
alors,
tout.
Alors, vous avez enregistré l'intégrale des symphonies de Beethoven, je crois,
si.
Avec la chambre philharmonique. Donc, c'était sur des instruments d'époque, de l'époque de Beethoven?
C'est ça, ou des copies, c'est ça. Mais ce sont les instruments appropriés à cette musique. C'est une démarche intéressante parce que moi, je la traîne. Enfin, je la prends avec moi, y compris sur le plan humain. Quand je vais devant un orchestre institutionnel, j'amène la même façon de travailler, c'est-à-dire on est sur l'écoute et pas sur la hiérarchie.
Alors, est-ce qu'il s'agissait à ce moment-là de retrouver comment Beethoven aurait pu imaginer ses symphonies, comment Beethoven les entendait dans sa tête?
C'est ça, par exemple, les équilibres, comme les instruments étaient de cette époque-là, ils sonnent pas comme maintenant. On peut comprendre un peu mieux comment c'est écrit, parce que c'était ces instruments-là. Par exemple, un basson avait moins de puissance, un cor, etc. Voilà.
Donc, retrouver tous ces équilibres.
C'est ça, mais c'est pas historique. C'est, comment dire, c'est... Oui, c'est une... C'est ça, c'est comment dire, c'est un certain... On peut comparer ça un peu, mais c'est une comparaison triviale, idiote, mais tu me diras, on est à la radio, donc on n'est pas là pour être, comment dire, d'une honnêteté scrupuleuse, mais puisqu'il s'agit de, comment dire, de se faire comprendre, c'est ça que je veux dire. Alors, je dirais, comme image, c'est un peu la différence entre la mentalité bio pour faire du vin et la mentalité non bio. Ça veut pas dire que les non bio ont tort ou que les bio ont raison. C'est une autre manière, une autre façon de faire. C'est ça.
Voici la symphonie numéro 1 en ut majeur opus 21 de Beethoven. C'est le menuet, donc le troisième mouvement de cette symphonie, par la Chambre philharmonique sous la direction d'Emmanuel Krivine. Le menuet de la symphonie numéro 1 en ut majeur de Ludwig van Beethoven, interprété par la Chambre philharmonique sous la direction d'Emmanuel Krivine, quelque chose, une interprétation très légère, on peut dire ça comme ça, on a l'impression que c'est qu'on s'en va avec vous, Emmanuel Krivine.
Je ne sais pas, c'est vous qui le sentez, je ne sais pas.
La Chambre philharmonique est aussi, vous vouliez le dire, en résidence actuellement, oui, parce que c'est vrai qu'il faut trouver des endroits où répéter, et vous êtes en résidence.
Oui. On est en résidence
au Grand Théâtre d'Aix.
Grand Théâtre Provence, oui, c'est très agréable là-bas, en plus c'est une très belle ville. Il y a un directeur Bluzet qui est fort inspiré, qui est vraiment un grand directeur de théâtre. Puis c'est une salle agréable, un public fidèle. On est là pour 3 ans. Et ma foi, c'est bien, c'est très chouette, parce que en ce moment, c'est très difficile de survivre avec les orchestres intermittents, etc. C'est très compliqué, il y a une concurrence folle, il y a des orchestres qui plus ou moins subventionnés, plus ou moins, plus ou moins riches ou pauvres, ce qui fait que le marché est très compliqué, ça c'est vrai.
Alors à partir de 2006, vous avez dirigé l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg? 2005 peut-être?
Oui, non, 2006. De 6 à 15, j'ai fini en juillet dernier, j'étais là-bas, oui.
Ça reste un bon souvenir pour vous
Oui, tout à fait, c'était très agréable, un très bon musicien, il y avait des dizaines de nationalités là-dedans, ces gens qui aiment la musique, qui sont... c'est une très belle salle aussi, très belle salle, la Philharmonie de Luxembourg, on a fusionné récemment. Moi j'y ai passé du bon temps, j'ai commencé en 2001, puis en 2006, j'étais directeur de l'orchestre jusqu'à 2015.
9 ans.
On a tourné beaucoup. C'était une, comme on dit maintenant chez les bourgeois, c'est une belle aventure. Non, mais en dehors de ça, il y a un attachement, quoi. C'était d'ailleurs difficile de les quitter en juillet dernier. On s'attache, quoi. On a beau être des chefs d'orchestre, on a quelque chose qui reste d'humain.
Alors c'est pour ça qu'on va... Oui, ça va à l'encontre de ce que vous disiez tout à l'heure. Alors,
oui,
c'est pour cela qu'on va vous écouter, dirigeant Till Eulenspiegel de Strauss. L'espièglerie, c'est quelque chose qui vous va bien, non?
Absolument.
Emmanuel Krivin.
Il y a une identification presque totale avec Till Eulenspiegel.
Oui,
c'est
ça,
une
œuvre
que je pense avoir intégrée. Et j'en suis même sûr, en vérité. Et à mon avis, mais je suis pas critique musicale moi-même, elle me va comme un gant.
Et oui, c'est vrai.
Et l'Orchestre Luxembourg, je sais très bien. C'est notre dernier disque qui est sorti il y a un mois, enfin 2 mois, oui.
Ah, aux auditeurs
de Zemlinsky dans cette l'édition originale de la Seejungfrau, la petite sirène de Zemlinsky sur le même disque.
Alors moi, je trouve que effectivement, ça vous va très bien, l'espièglerie, et donc cette direction de ce Till Eulenspiegel vous va fort bien. Les auditeurs pourront se faire leur avis, ils peuvent réagir aussi s'ils veulent sur Twitter, Facebook, ce qu'ils veulent. Un extrait de ce Till, l'espiègle de Richard Strauss par l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg sous la direction d'Emmanuel Krivin qui dirige ici en direct dans le studio. J'ai cette chance-là de pouvoir le voir. C'est vrai que vous l'avez encore en vous, ce Till, l'espiègle de Strauss.
Oui, c'est une des premières choses que j'ai connues. J'avais rencontré Karl Böhm qui a créé plein d'œuvres de Strauss en 65 à Salzbourg. Et c'est parce que j'étais fasciné par Strauss que j'étais allé voir Böhm.
Ah oui. Oui. Donc là, l'interpréter, c'est...
Oui, c'est rendre hommage à tous ces gens-là, spécialement à Strauss. D'ailleurs, j'ai lu l'autre jour quelque chose d'assez triste, vous voyez. Le docteur Goebbels, quoi, qui n'était pas un grand marrant, qui était le ministre de la propagande de Hitler, et etc. Et Goebbels, il avait reçu Strauss en public en lui disant... Franz Lehár, c'est un homme qui a compris les foules, etc. Vous êtes un homme du passé, monsieur Strauss. Mmh. Là, il a dit ça à Richard Strauss.
En carrément. Vous écoutant, ça fait pas... Oui, effectivement, c'est une grossière erreur. Alors, on va parler maintenant aussi, Emmanuel Krivin, de l'ONF, l'Orchestre National de France.
Ouais, qui jouerait ça très bien, d'ailleurs. Enfin, qui le joue très bien. Mais je veux dire, je les connais pas là-dedans, mais on va le faire. On va toucher à Till dans les plus brefs délais, j'espère.
Alors, justement, c'est une nomination. Vous allez prendre vraiment vos fonctions à partir du 1er septembre 2017. Vous avez déjà une idée des répertoires dans lesquels vous avez envie de faire jouer cet orchestre?
Ben, vous savez... Nous, on fait pas jouer des répertoires. Il y a un public et il y a un public. C'est ça, ça. Et donc c'est la circulation de l'énergie qui compte. C'est celui qui joue et celui qui écoute. En fait, c'est associé. Il y a pas d'écoute sans celui qui joue, mais contrairement à ce qu'on croit, il y a pas de jeu sans celui qui écoute. Tout ça est actif. Il y a pas actif passif. Le tout est actif. Écouter et jouer.
Il faut donc comprendre tout le monde.
Oui, comprendre tout le monde et surtout vous avez des publics qui aiment des tas de choses différentes. Donc il y a un côté sacerdotal au sens service. On est un orchestre, un chef, etc. Il y a quand même un service. On est au service de cette écoute. Donc on peut pas se dire j'aime ça, je joue ça. Hein, j'aime pas ça, je joue pas ça. Non. Ce que vous pouvez faire, par exemple, pour qu'un public ait de tout, c'est que les chefs d'orchestre qui passent, les solistes et le directeur musical inclus, tout ça se partage le répertoire éclectiquement, en essayant de mettre dans chaque œuvre le type qui convient le mieux, c'est tout. Si, par exemple, je me sens pas apte à faire telle œuvre, je suis pas bon dedans, par exemple, le Sacre du Printemps, moi, avec moi, c'est le Massacre du Tympan. Enfin, c'est un vieux classique, tu me diras, cette
année. Mais je suis pas
très bon là-dedans. Autant y mettre un gars qui va faire ça génialement. Vous
d'accord.
Voyez, voilà. Comme ça, le public est toujours bien servi, et entre nous, l'orchestre aussi.
Oui, alors l'orchestre, justement, puisque vous avez commencé dans notre grande maison,
oui.
J'imagine que revenir ici, ça doit représenter un enjeu, quelque chose pour vous, Emmanuel Krivin, une joie sans doute.
Oui, c'est touchant même, parce que j'ai commencé ici officiellement en 75, grâce à Voslinski, qui était le directeur de la musique en ce temps-là, qui était un type assez intéressant, faut dire, il a fait venir Mazel, Tchelibidake, enfin, il y avait de l'idée chez lui. Ensuite, il a été à l'Orchestre Paris. Bref, je vais pas vous raconter la vie de cette maison, vous la connaissez.
Donc, j'ai commencé
en 75 là, et maintenant je reviens à la même maison avec l'autre orchestre, et c'est tout à fait touchant, cette affaire. Et c'est la même maison, mais je l'aperçois tout différemment, complètement différemment. Mais évidemment, 75-2016, c'est pas la même école.
Il y a 40 ans d'écart.
En ce temps-là, j'aimais pas l'architecture, par exemple. Maintenant, je trouve ça intéressant, c'est curieux. Et la salle ici, la nouvelle salle, c'est très intéressant.
L'auditorium.
C'est une bonne salle. Et on va fidéliser tout ce beau monde dans cette salle parce que c'est une salle tout à fait attachante, intéressante, qui sonne bien. Vous avez également un patron ici, Gallet, Mathieu Gallet, qui adore la musique, il connaît plein de trucs. Moi, j'ai pas connu d'autres PDG de Radio France, j'en ai connu pas mal, qui connaissent aussi bien la musique.
Hein. Il adore la musique classique, c'est
oui,
vrai.
Oui, c'est important, c'est bien ça.
Ouais, très important pour la musique et pour nous et pour les orchestres, et notamment l'Orchestre National de France. Alors, le 3 mars dernier, vous avez donné un concert avec l'Orchestre National de France à l'Auditorium. On va écouter un extrait de la symphonie numéro 5 de Shostakovitch que vous avez interprété avec l'Orchestre National de France. On va entendre la fin, hein, le final. Ce moment où on entend beaucoup les cymbales, les cuivres, les timbales. On a l'impression un petit peu comme si c'était un hymne à la gloire de quelque chose, de quelqu'un. C'était composé en 1937, je crois, par Shostakovitch. C'est quoi exactement ce final?
Je vous dirai après.
On va l'écouter d'abord.
C'est mieux que ça passe par l'oreille. D'accord. Avant, pour ne pas être conditionné, comme quand on goûte quelque chose à l'aveugle.
En tout cas, c'est une musique qui semble joyeuse. Les cymbales, les cuivres et les timbales du final de la symphonie numéro 5 de Chostakovitch par l'Orchestre National de France sous la direction d'Emmanuel Krivine. Le final de la symphonie numéro 5 de Dimitri Chostakovitch par l'Orchestre National de France sous la direction d'Emmanuel Krivine. Grâce à l'amitié que nous porte France Musique qui nous a donné cet enregistrement que vous avez dirigé, Emmanuel Krivine, j'en suis toute émue parce que je vous voyais, vous y êtes encore. Quelques mois plus tard, vous l'avez encore en vous. J'aimerais bien d'ailleurs venir assister à vos répétitions si vous voulez bien. C'est vrai que vous donnez envie de vous voir diriger. Alors cette symphonie, dites-nous en quelques mots, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais est-ce que c'est vraiment à la gloire du régime ça, ou pas du tout, au contraire ?
Non, le message est contraire. Le message est exactement le contraire de ce qu'on entend. Et la salle était entièrement en pleurs et s'est levée en plein milieu du final. C'est extrêmement angoissant, mais l'apparence est joyeuse. Il y a 252 fois la note là. Le la 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 la, 252. Et donc, c'est un sourire à l'envers. Et c'était la façon de faire passer, la seule façon de faire passer que c'est atroce, le régime stalinien, mais que, n'est-ce pas, on est tous dans la joie, tout va bien. Tout le monde a compris le message. Tout le monde l'a compris.
Merci Emmanuel Krivine. On viendra vous écouter diriger l'Orchestre National de France dès que vous prendrez vos fonctions réelles. On a hâte. Merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Merci à toute l'équipe. Merci à Arnaud Caillé qui était à la technique. Demain, nous recevrons Raphaël Nadjari.